Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir de découvrir la nouvelle parution du Cercle de l'entreprise et du management à travers un ouvrage dirigé par Pierre-Louis Dubois, Le nouveau visage des dirigeants du CAC 40 qui est sorti chez Personne, Village Mondial, de 210 pages. Et je reçois donc celui qui a dirigé cet ouvrage, Pierre-Louis Dubois, pour qu'il nous fasse découvrir ses réflexions sur ce nouveau visage des dirigeants du CAC 40. Alors, très rapidement, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très, très occupé. Bonjour et merci.
Bonjour et merci. Très heureux d'être ici.
Heureux de vous accueillir. Je voudrais rapidement vous présenter avant de rentrer dans ce sujet qui est extrêmement passionnant. Vous êtes docteur d'État et agrégé de sciences de gestion. Vous êtes professeur à l'Université de Panthéon d'Assas, donc Paris 2, et professeur affilié à l'ESCP EAP. Vous êtes un spécialiste, on va dire, du marketing et de la communication, entre autres, parce que vous avez beaucoup de connaissances et de la gestion. Vous avez dirigé cet ouvrage. Alors ça, c'est déjà en soi un exercice de diriger des auteurs. Ils étaient nombreux. Ils étaient combien, les auteurs ?
Ce sont les membres du cercle de l'entreprise et du management.
Dans leur ensemble.
Ils sont professeurs des grandes écoles et des universités, spécialisés en sciences de gestion. Et disons que la plupart ont participé. Je voudrais simplement, en exergue à cette interview, hein, rendre, parce que j'ai dirigé cet ouvrage, bon, celui qui a eu l'idée de l'ouvrage et celui qui devait le diriger, c'est notre collègue Élie Cohen, présidente de FIN, qui hélas disparu. Et cet ouvrage, d'ailleurs, est un hommage à notre collègue Élie Cohen. Et je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est notre ami Élie qui a eu cette idée. Alors, j'ai essayé de respecter, je n'ai pas été le seul, hein, puisque avec mes collègues du Cercle d'entreprise et du management, qui était le projet d'Élie Cohen, qui était d'interroger des dirigeants d'entreprise et des dirigeants d'entreprise du CAC 40 parmi ceux qui étaient aux rênes de leurs entreprises de façon assez récente. Une douzaine ont accepté, on a contacté plusieurs, une douzaine ont accepté. Et de pouvoir présenter à ce moment-là, bon, ils ont été interviewés chacun par un binôme. Donc, je n'ai pas interviewé tout le monde, moi j'ai interviewé l'un d'eux, hein, puis j'ai joué mon rôle. Et suite à ces interviews, on a décidé de ne pas publier, ce n'était pas l'enjeu de les interviews directement, mais de refaire un travail pour présenter sur les grands thèmes, ce qui était le visage, la conception, le visage de ces dirigeants. Il ne s'agit pas de faire une analyse, hein, il s'agit de présenter de la façon, on espère, claire et pédagogique, hein, ce que sont leurs conceptions sur un certain nombre de grands thèmes, l'entreprise, la stratégie, la communication, la responsabilité.
Oui. Alors, tout à fait. Peut-être nous dire un mot sur le cercle de l'entreprise et du management avant. Donc, je ne vous ai pas posé la question. Donc, ça regroupe des professeurs essentiellement d'université.
Alors, le cercle d'entreprise et du management comprend aujourd'hui une vingtaine de professeurs des grandes écoles et des universités. Ils sont nombreux. Bon, je ne vais pas donner de nom parce que je ne voudrais pas. Mais vous avez des directeurs de très grandes écoles, les meilleurs en France. Vous avez aussi des professeurs en France, à Paris, en province, dans les universités. Et l'objectif du cercle de l'entreprise et du management et de faire connaître ce qu'est l'entreprise et aussi d'essayer d'avoir toute forme d'action qui permette d'éclairer, hein, le plus possible le grand public ou l'ensemble des parties prenantes en France, hein, sur ce qu'est l'acteur entreprise et les conceptions qu'on peut avoir dans ce domaine-là. et l'ensemble des conceptions, que ce soit en il ne s'agit pas d'un parti pris, notre seul parti pris, c'est la connaissance. Et c'est faire partager la connaissance de l'entreprise.
Ah, ça, c'est une noble cause. Nous félicitons. Donc, effectivement, je vois des noms extrêmement connus, d'ailleurs, qui sont proches souvent du cercle Turgot, Philippe Dessertine, Jean-Pierre de Boisivon, Laurent Batch, etc. Bon, d'accord, effectivement, un cercle de, entre guillemets, de savants en la matière. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé qui avait changé dans ce métier de dirigeant? D'abord, est-ce qu'il a véritablement changé? Et s'il a changé, sur quel point particulier vous notez une évolution qui ressort des interviews que vous avez eues avec on a dit, je crois que c'était 12, je peux dire les noms peut-être très rapidement, Gérard Bayol de Dexia, Henri de Castries d'Axia, José-Louis Durand de Carrefour, Patrick Cron de Alstom, Xavier Huillard de Vinci, Bruno Lafont de Lafarge, Christophe de Margerie de Total, Gilles Pélisson d'Accor, Benoît Potier d'Air Liquide, Benoît Pro de BNP Paribas, Christian Streff de PSA et Jean-Pascal Tricouard de Schneider Electric. Effectivement, c'est une très belle brochette représentative du CAC 40. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme évolution structurelle, on va dire, enfin, tendance lourde, quoi?
Je dirais que, excusez-moi, ce qui peut sembler une digression, mais je dirais qu'on a eu de la chance, parce que sur les 12, il y en a encore 11 en position aujourd'hui. Et c'est justement un des aspects aujourd'hui des nouvelles gouvernances, c'est que personne n'est des propriétaires de son siège.
C'est ce qu'aimait dire en plaisantant Michel Bon. Il faut faire très attention quand on est dirigeant et qu'on reçoit un grand prix, parce que probablement que dans l'année qui suit, on n'est plus en place.
Alors nous, on les interrogeait quand même. Maintenant, ça fait entre, je dirais, 6 et 18 mois, donc avant la crise. Aucun n'a été interrogé au moment. Bon, certains, peut-être, grands esprits ont prévu la crise, mais oui, on peut dire qu'avant juin, on se disait que peut-être il y aurait des choses, mais on n'avait pas vu grand-chose. Et donc, ils ont tous été interrogés avant juin 2008. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Parce qu'il a, si on donne deux ou trois points qui me semblent vraiment les points essentiels, c'est assurément, ils ont tous un profil international.
C'est ça.
Multiculturel, international. Et ça, c'est véritablement quelque chose de tout à fait fondamental pour eux. Ils sont dans des entreprises qui sont des entreprises mondiales. Alors, certains diront multilocales, parce qu'ils ne veulent pas justement qu'on soit dans des normes mondiales, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à chaque entreprise, à chaque culture. Mais il y a une dimension internationale qui est vraiment prioritaire. Deuxième élément, dans le métier du responsable d'entreprise, aujourd'hui, la gestion, le management des hommes, la gestion des hommes, c'est quelque chose de fondamental.
Il l'emporte presque sur la stratégie, certains disent d'ailleurs.
Oui, et certains disent que ça l'emporte de temps en temps. Alors, je pense que la stratégie reste dominante, mais c'est vrai que si on prend le temps d'un grand patron aujourd'hui, bon, on définit pas la stratégie, ça se fait peu à peu, mais il n'est pas là pendant 18 heures dans sa journée
à dire quelle
est la stratégie. Par contre, il est en train de rencontrer ses équipes. Certains disent j'ai passé durant 2 mois, je prends Jean-Pascal Tricouard, il nous dit pendant 3 mois, j'ai passé une nuit sur 3 dans l'avion. Ce sont des personnes, je dirais qu'il leur faut une résistance physique. Hein. Je pense que ça fait partie de leur métier. Ils ne le disent pas tous, mais il faut vraiment qu'ils soient entraînés.
Physique
parce que,
et au stress aussi.
Une résistance au stress. D'autant plus que l'un nous dit, par exemple, on est toujours entre tension, mise sous tension, parce que c'est vrai aussi, ils ont un rôle d'adaptation de leur groupe, de leur équipe à la concurrence, à la compétition, ce qui n'est pas facile, donc il y a des tensions. Et ces tensions, à la fois, il faut les faire passer au sein de l'entreprise, et d'autre part, il faut aussi avoir la capacité de les gérer, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, que les personnes soient tellement tendues que ça les inhibe. Et c'est pas quelque chose. Donc cette dimension ressources humaines me semble aussi quelque chose d'extrêmement important. Et qui
c'est une confirmation, parce qu'on dit toujours que l'homme est au centre de tout. Mais bon, effectivement, c'est une confirmation. Les grands patrons disent aujourd'hui, je passe l'essentiel de mon temps dans le management de l'homme.
Et alors, troisième point, on sent, et ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant, que bien sûr, il y a le raisonnement par rapport, je dirais, à certaines parties prenantes de l'entreprise, interne à l'entreprise, c'est-à-dire leurs équipes, leurs clients, leurs actionnaires. Mais très franchement, de façon non feinte, tous ou presque tous ont parlé de la responsabilité sociale de l'entreprise, et avec des phrases qui sont parfois intéressantes, j'en ai pris une, pour créer de la richesse, il faut être en symbiose avec le modèle sociétal local. Ça, c'est dit par le PDG de Lafarge, M. Lafont.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est pas le seul.
Lafarge est effectivement, de façon traditionnelle, très avancée sur cet aspect de responsabilité sociétale de l'entreprise. Le prédécesseur... Bernard Collomb était lui-même...
Il le cite comme mentor. Ouais. Une autre phrase que je pourrais citer n'est un peu longue. Mais
on est là justement.
Alors, je vais vous la citer. Hein. Oui. Moi, je ne suis pas là pour ni prendre position pour ou contre, hein, mais je cite simplement de mes reflets.
Les lecteurs apprécient. Hein.
La particularité de notre capitalisme est d'être teinté d'humanisme. Si nous ne prenons pas en compte cette exigence d'humanité dans notre pratique... Nos différents publics, que ce soit les jeunes que nous essayons d'embaucher, les clients que nous essayons de convaincre, nos partenaires, sous-traitants, nos actionnaires, ne joueront plus. Et à un certain moment, à la première crise, ils nous taperont dessus de façon extrêmement violente. Xavier Huard, Vinci. Alors vous voyez, une phrase comme celle-là, sans être détachée du contexte, elle montre quand même qu'aujourd'hui, un patron d'entreprise, il sait qu'il est dans une société...
Où il a une responsabilité forte.
Où il y a qui une responsabilité morale. Alors, mot société, là, je dirais, est polysémique. Il est à la fois dans une compagnie, une société, au sens juridique du terme, où il y a une personnalité morale.
Il est dans la société.
Mais aussi, il sait qu'il est dans la société. Et qu'on ne peut pas, bien sûr, il y a des cadrans économiques qui sont face à lui, mais il n'y a pas que les cadrans économiques dont il a à tenir compte. Et ça, on sent que tous, et on trouvera de nombreux exemples dans le livre, on ne leur a pas posé de questions et la responsabilité sociale de l'entreprise. Mmh. Les interviews étaient très libres. Mmh. Et beaucoup sont venus spontanément sur ce sujet.
Je dois dire que ça confirme tout à fait un colloque qui s'était tenu au Sénat sous l'égide de la Fédération nationale des dirigeants salariés et qui avait montré combien le nouveau champ des responsabilités des dirigeants s'était étendu, ne serait-ce que sous la pression, à l'épreuve de l'opinion. Alors, responsabilité effectivement de l'entreprise à travers le dirigeant par rapport à la société civile, mais responsabilité aussi du dirigeant en tant que personne physique, à titre personnel, en dehors de l'entreprise, sur ces mêmes sujets.
Ah ben tout à fait, parce que bon, il y a bien sûr l'entreprise, toutes les entreprises ont une personnalité morale,
c'est
et
ça.
C'est d'ailleurs très bien dit dans le dernier chapitre écrit par Lucien Rapp et Delphine Manceau. Cette personnalité morale, c'est quelque part, bien sûr, c'est le droit, mais c'est aussi quelque part une fiction. Derrière, il y a des hommes.
Tout à fait.
Et très souvent, quand on voit qu'une entreprise est attaquée, les hommes ne sont pas, certains d'entre eux ont eu de temps en temps un certain nombre de problèmes avec la justice, non pas qu'ils aient fait la moindre malhonnêteté, mais simplement, c'est qu'à partir du moment où leur entreprise est engagée, eux-mêmes sont engagés. Et derrière, ces hommes, aujourd'hui, sont parfaitement conscients aussi de ces règles du jeu. Et c'est ce qui rend le métier du dirigeant parfois assez stressant, parce que quand vous avez des entreprises qui sont mondiales, devoir surveiller non seulement...
vous ne pouvez pas surveiller.
Ils ont un ensemble, c'est plus qu'un cockpit d'avion. Hein, donc, on y citait, par exemple, alors on ne l'a pas interrogé, mais... Jean-Louis Beffa, qui est chez Saint-Gobain, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait plusieurs centaines de filiales et regardait de façon très régulière tous les mois les résultats de l'ensemble des filiales, etc. Donc ils sont quand même devant des ensembles qui sont des ensembles mondiaux. Et ça, c'est
non, mais c'est sûr que le métier de dirigeant de grands groupes est complètement indissociable de la notion de responsabilité. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que, et c'est peut-être notre sujet qui est un peu plus sensible, que la rémunération des dirigeants est venue sur la table et avec, je pense, en tout cas c'est mon avis, je voudrais recueillir le vôtre, une avancée quand même très sensible qui distingue maintenant de façon très claire la responsabilité du dirigeant numéro 1, qui est donc mandataire social, et qui dissocie dans la logique de sa rémunération les aspects contrat de travail, en les écartant, et par rapport au risque réel que le dirigeant l'emporte. Et donc c'est le risque réel de cette fonction qui doit être rémunéré à travers un mode de rémunération différent de celui des dirigeants salariés qui, eux, ne portent pas le mandat social et l'intégralité de la responsabilité. Je crois que ça c'est extrêmement net entre dirigeants top numéro 1 comme ceux que vous avez interrogés qui sont les mandataires sociaux et donc les numéro 1 et les autres dirigeants qui sont eux salariés et rattachés à un contrat de travail, il y a quand même bien cette grande différence, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, que le numéro 1 porte la totalité des risques et que son mode de rémunération ne peut pas être exactement apprécié selon les mêmes normes qu'un contrat de travail.
Oui, mais puis
enfin, je ne sais
aussi,
pas si vous partagez cette analyse.
Non, mais mon opinion a un peu d'importance, mais ce qui ressort très nettement, Et le sujet de l'ensemble des interviews d'eux-mêmes, et puis aussi des collègues qui ont écrit le manuel. Il y a un chapitre qui est d'ailleurs totalement consacré à la rémunération du dirigeant. Ouais. C'est qu'ils sont parfaitement conscients à la fois de leur rôle, de leur risque aussi, hein, qui est important. Aussi du fait qu'il y a un rôle du dirigeant qui est très spécifique. Et il y a des dirigeants quand même qui ont construit des compagnies, qui ont construit des sociétés, qui ont eu un rôle de développement tout à fait remarquable. Je suis là pour faire de la promotion de personne, mais si on revoit par exemple le rôle qu'un Claude Bébéard a joué dans sa société, ou un Martin Buick dans sa société, ou Dassault, etc., il y a eu des grands constructeurs. Et en France, on peut se dire quand même qu'on a la chance d'avoir de très nombreuses, très grandes entreprises, beaucoup plus au niveau mondial, des leaders mondiaux. Donc il y a un vrai rôle du dirigeant, et parmi eux, il est vrai qu'il y en a qui ont entraîné... pour la société française, et ont créé de la richesse, et non seulement de la valeur pour les actionnaires, mais de la richesse de façon générale. Bon, ceci mérite récompense. Par contre, il est tout à fait anormal qu'un dirigeant qui n'a pas été performant, s'enracine, et deuxièmement, puisse bénéficier, alors on ne va pas rentrer dans le détail des bonus, etc., de suppléments de revenus, alors même qu'il n'a pas justement créé de la richesse autour de lui. Et je crois que la limite, après il y a des aspects techniques, on peut fixer le curseur là où on le souhaite. Il y a aussi des normes, il ne faut pas non plus que ça devienne, je dirais, hors normes du point de vue des rémunérations.
Oui, en valeur absolue.
Il y a certainement des normes aussi. Ouais. Bon, il ne m'appartient pas de les définir. Non. Mais j'ai remarqué que la plupart étaient bien conscients que, ils le disent, la performance doit être récompensée, mais ils sont aussi tout à fait d'accord que ça doit être la performance relative, parce que si vous êtes dans un secteur qui augmente de 50% et que vous augmentez de 30% vos revenus, c'est quand même pas un exploit considérable. Et puis, deuxièmement, il faut que, ensuite, il y ait la possibilité d'avoir non seulement un système qui soit un système incitatif positif, mais que la défaillance, elle aussi, soit sanctionnée. Hein, c'est clair. C'est ce qui rend très difficile le métier de dirigeant, d'ailleurs. Hein, c'est clair.
Tout à fait. Donc, cette notion de risque est tout à fait perçue. Alors, autre grande évolution du métier, structurellement, vous voyez autre chose. Enfin, donc, d'un côté, le métier est international. Deuxièmement, la place des hommes est extrêmement centrale. Troisièmement, la notion de risque, ce que vous avez dit, est extrêmement forte, puisque le dirigeant, par définition, porte sur ses épaules cette notion de risque. Et on le sent peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. C'est donc une des évolutions. Y en a-t-il d'autres ?
Il y en a d'autres. Il y a, par exemple, un point qui est fondamental, c'est la communication du dirigeant. Aujourd'hui, ces dirigeants, les dirigeants ne connaissaient pas toujours leur nom, le connaissaient de temps en temps, et puis ils faisaient une intervention de temps en temps. Ce n'est pas ce qui marquait les médias. Aujourd'hui, un dirigeant, il travaille quand même, si on le prend au plan économique, sur trois marchés, le marché du travail, le marché financier, et on sait combien il peut être difficile, et le marché des biens et services. Et là aussi, ce n'est pas rien, parce que par derrière, il y a l'industrie, il y a les services. Et leur communication peut avoir des conséquences immédiates, notamment sur le marché financier. Il y a des réactions qui vont être immédiates. Donc ils sont obligés d'avoir des communications qui soient extrêmement claires, maîtrisées. Ils sont obligés de réagir. L'un d'entre eux, Christophe de Margerie, dit une bonne communication de crise, c'est une communication qu'on a préparée. C'est-à-dire que pour eux, la crise est presque devenue quelque chose qui, de toute manière, va arriver. Hein. Donc ils sont obligés de préparer. Alors, une chose qui est très importante, c'est ce qu'ils nous disent, c'est la prise directe. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment au-devant des équipes. L'un dit, moi je rencontre mon comité, le comité européen au niveau syndical tous les 3 mois. Ils sont vraiment en prise directe avec leurs équipes. Et ils passent énormément de temps en contact. Certains disent qu'ils vampirisent même. Il y a des personnalités qui sont assez de ce point de vue-là. Après, il y a les personnalités de chacun, plus ou moins froides. Mais quelqu'un comme Christophe de Margerie, qui disait, parce qu'on a fait des petits portraits à la fin du livre, pas des portraits de complaisance, qui donnent des petits portraits en 2 pages.
Extrêmement synthétiques, qui sont extrêmement intéressants pour ça.
Et qui ne donnent pas le CV.
En 2 pages.
Mais qui sont plutôt 2 pages et des portraits. Ils ont des figures d'ailleurs assez différentes. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui, à l'intérieur de l'entreprise, il y a une véritable culture, il y a des partages de codes. Et on sent que là, ça ressort aussi très fortement. Alors, pour répondre à votre question, ça, c'était le dirigeant tel qu'on l'interrogeait dans ce livre. Aujourd'hui, les règles du jeu, depuis 3-4 mois, de nouveau, et ça fait partie du métier du dirigeant, depuis la crise, le 5 mois, on va dire aujourd'hui, depuis la crise, eh bien, les règles du jeu sont... Alors là, on ne les a pas interrogées, mais ça vaudrait le coup, et je pense qu'il y aura certainement une suite.
Une actualisation.
Oui, une actualisation. Avec la crise, il y a des règles du jeu qui changent. Alors, vous voyez, il y a des choses qui sont un petit peu curieuses quand même. C'est bon. Le dirigeant est très international. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une crise et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de plans qui sont des plans nationaux. Bon, moi, je ne pense pas, mais ça, c'est un avis tout à fait personnel, que vis-à-vis de nombreuses causes de cette crise, les problèmes soient des problèmes qui sont uniquement dimension nationale. D'ailleurs, ça crée, on voit tout de suite que dès qu'on traite le problème de façon nationale, il suffit d'ouvrir le journal de ce matin, protectionnisme, etc. Voilà. Et si on peut parler de la régulation, on ne peut pas traiter la régulation financière à un niveau national, c'est à un niveau international. Et on se rend compte que là, très vite, on revient vers ce type de paradoxe. Bon. Je crois que la crise va entraîner un certain nombre d'évolutions très fortes. Et là, le cercle de l'entreprise a décidé de faire son prochain séminaire, c'est dans un mois et demi. On va se réunir, on va dire, de façon un peu prétentieuse ou œcuménique, en conclave. Hein. Et pendant deux jours, on va réfléchir et on va non seulement réfléchir, mais on va produire et on va essayer de produire un document, un rapport sur... comment gérer en période de crise.
Et là, certainement, ah oui, la gestion de période de crise, c'était ça.
Voilà. Et pas, je ne dirais pas en période de crise au sens, parce que là aussi, c'est polysémique. Il y a des crises qui arrivent parce que tout à coup, il y a un problème sur un marché financier ou sur un marché de biens et services, une rumeur, etc. Ce n'est pas cette crise-là. Ça, c'est la crise longue, celle qu'on connaît actuellement, celle dont, à part les pitis et les oracles, personne ne voit vraiment effectivement la sortie de façon claire.
Si vous voulez bien, on va marquer une pause, Pierre-Louis Dubois, et nous allons revenir sur un chapitre qui m'a paru extrêmement intéressant, qui est celui des valeurs que les dirigeants expriment.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire, une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Eh bien, chers amis, nous retrouvons Pierre-Louis Dubois du Cercle de l'entreprise et du management qui a donc dirigé l'ouvrage « Le nouveau visage des dirigeants du CAC 40 » qui est paru chez Village Mondial. Et nous avons déjà commencé à esquisser ce nouveau portrait du dirigeant d'aujourd'hui et de demain à travers quelques photographies des 12 dirigeants du CAC 40 qui ont bien voulu se prêter à cette enquête. Alors nous avons vu quelles étaient les grandes tendances de leur métier, mais on revient, si vous voulez bien, maintenant sur ce qui est constant, central et aussi d'actualité sur les valeurs. Alors, sur les valeurs, ce qui m'a paru très, très important, mais vous allez nous le dire, c'est qu'ils ont tous souligné l'exemplarité comme étant quelque chose qui, non seulement eux ressentent, mais qui probablement aussi est très, extrêmement demandé, exigé par l'opinion.
Ce qui ressort un peu en synthèse, un dirigeant va avoir de nombreuses fonctions, certains le disent, mais il y a deux fonctions qui dominent. Il y a une première fonction qui est fondamentale, et c'est là où il peut vraiment impulser son entreprise et jouer un rôle, je dirais, au niveau de l'ensemble du groupe qu'il dirige. Cette première notion, c'est sa vision. Il faut qu'il ait une vision. Et le deuxième point, il faut qu'il puisse s'entourer et mobiliser. Et que aujourd'hui, on demande aux dirigeants de faire partager ses valeurs. Et c'est là où on arrive à la notion de valeur. Or, la notion de valeur, on s'aperçoit que même s'il y a des profils un peu contrastés, de très nombreux dirigeants aujourd'hui sont des personnes qui sont du métier, qui ont passé un long temps d'entreprise. Pas tous, il y a parfois des dirigeants qui sont arrivés.
Il y a ces deux aspects, dirigeants métier et dirigeants généralistes.
Voilà. Et alors, il y a beaucoup de dirigeants qui sont du métier, qui sont issus de l'entreprise, qui ont passé plusieurs années, qui ont monté, qui ont eu souvent un mentor dont ils parlent.
On parlait de Bébéard et de...
De Bébéard, de gens comme Henri Lachmann, etc., qui sont cités, comme Jean-François Roverato, etc. Ils ont souvent eu des mentors auxquels ils se réfèrent, ou Pierre Richard, ou Claude Bébéard lui-même. Et très souvent, ces dirigeants connaissent quelque part le métier, se sentent totalement investis dans leur entreprise. Et alors, les valeurs, comment résumer les valeurs? Je crois qu'il y a plusieurs valeurs qui ressortent de façon claire. D'abord, ils cherchent à créer dans leur entreprise une certaine solidarité. Ils disent que l'entreprise, c'est... Ouais, alors ça, est-ce que c'est un mythe de vouloir en arriver là? Mais néanmoins, il est clair que très souvent, devant des réactions de la concurrence, de la compétition, ils ont l'ambition de créer cette solidarité et d'avoir un comité exécutif. Alors, il y a beaucoup de réunions. Il y a des réunions avec des petits comités. Il y a le comité exécutif. Il y a, dans certaines entreprises, le G100, on réunit tous les patrons du monde. Il y a véritablement des rites qui sont vraiment très importants pour créer cette solidarité, cette ambition commune, cette vision commune. Le deuxième, c'est l'ambition. Ils cherchent véritablement à ce que l'ambition de l'entreprise soit l'ambition, en quelque sorte, de chacun.
L'ambition partagée. Donc.
L'ambition partagée. Et bon, ça, c'est naturellement, il y a aussi certainement par derrière des systèmes d'incitation. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel quand même. Les personnes, véritablement, cherchent à réaliser et croient à leur entreprise. Et c'est un des rôles du dirigeant de savoir faire partager ses valeurs. Hein, Henri de Castres, par exemple, dit pour que les gens soient véritablement se sentent responsables d'entreprise, il parle même, il faut leur mettre une étoile un petit peu dans la tête, c'est-à-dire que tout le monde y croit et tout le monde tire dans le même sens. C'est une ambition. Troisième point, vous l'avez dit, c'est la légitimité.
Voilà,
un patron, ça veut être légitime. Et cette légitimité, elle ne souffre pas que le patron ne puisse pas être exemplaire. Et donc, il ne s'agit pas de les déifier, mais leurs actions sont bien sûr regardées. Et si le patron s'investit, si le patron d'entreprise fait partager à chaque rencontre ce que sont les valeurs de l'entreprise, il a besoin de cette crédibilité-là. Et si ses actions ne correspondent pas à ça, il ne peut pas mobiliser.
Il est mis hors jeu maintenant.
Il est mis hors jeu. Donc il y a un aspect d'exemplarité. Ouais. Alors le quatrième aspect sur lequel beaucoup interviennent, c'est cet aspect d'humanisme. Vous trouverez par exemple le dirigeant de Vinci, Xavier Huillard, dit on n'a pas toujours. Un patron, c'est de pouvoir aussi de temps en temps écarter des personnes quand ces personnes ne tirent pas dans le même sens que les autres ou simplement leurs compétences ne sont pas celles qu'il faut. Il peut avoir plusieurs raisons. Lui, il se fait fort à chaque fois pour ses dirigeants de les rencontrer et de toujours leur offrir. Alors, je ne suis pas là non plus pour dire ce sont des mais je vous répète simplement que ces personnes puissent, suite à l'entretien, repartir avec dignité et repartir aussi avec motivation vers. Donc, le souci de l'autre, ça c'est quelque chose qui me semble aussi important. Et puis deux choses encore, la citoyenneté, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau de la responsabilité sociale, on pourrait le développer, mais bon, ça c'est un point. Et aussi bien sûr la création de valeur. Alors ce qui est intéressant, certains parlent de création de richesse, parce que c'est plus large que la seule création de valeur, la création de valeur des actionnaires. Et ça c'est pour les actionnaires et pour l'ensemble des parties prenantes, et pas seulement pour les actionnaires. Et sans en arriver dans des un tiers qui n'ont aucun sens quand on connaît la réalité de l'entreprise.
D'ailleurs, en plus, on n'en est pas très loin.
Mais voilà. Mais avec un
en constante, l'autre jour, Jacques Marseille nous disait à ce même micro, lui qui est historien de l'économie, que sur un siècle, le partage de la valeur est resté absolument constant. Ouais. Donc,
vous savez, ce qui importe, c'est l'équité.
Tout à fait.
Et le sentiment d'équité. On peut comprendre que la valeur se partage un peu différemment suivant les circonstances. Ce qui est véritablement important, c'est ça, c'est que les personnes se disent « c'est équitable
oui, ».
Et ça, c'est, je crois que c'est le souci, mais en France, on a de temps en temps vouloir tout normer. Les Anglais sont common law,
égalitarisme.
Les collègues juristes, nous, on va aller, on le voit dans beaucoup de textes aujourd'hui, on va aller jusqu'au détail, etc. Et je crois que le problème n'est pas là, le problème c'est « est-ce que c'est équitable ?»
Alors évidemment, c'était avant les interviews, avant que la crise atteigne son paroxysme, mais notamment dans le secteur bancaire. Mais il est vrai que les dirigeants, l'entreprise et les actionnaires ont été mis au banc de la société. Alors au niveau mondial, peut-être à juste titre, mais en tout cas dans l'Hexagone, on se demande pourquoi les choses sont allées aussi loin. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Il n'avait pas de comment dirais-je, senti cette pression de l'opinion qui montait et...
Moi, je pense que là, très franchement, il y a l'opinion, puis il y a les médias. Parce que si vous prenez une personne, et si vous la prenez dans ces différentes chacun d'entre nous, nous avons plusieurs activités, des activités culturelles, des activités sportives, une activité au travail, une activité aussi... de formation, de connaissances. Et moi, je pense que dire mettre au banc de la société, ça n'a pas grand sens. Parce que qu'on mette au banc de la société des fonctions qui sont des fonctions indispensables au fonctionnement de la société elle-même et à la création de richesses de la société. Ou un acteur comme l'entreprise, ça me semble tout à fait ridicule. Alors qu'après, il puisse y avoir, dans certains cas, des comportements qu'on estime défavorables, qu'on estime non éthiques. Seul, qu'on s'attache à certaines personnes, peut-être. Et ça, à ce moment-là, je pense que c'est, on rentre plutôt dans une sorte de casuistique. Mais ça n'a aucun sens de dire l'entreprise, c'est pas bien, ou la banque, c'est pas bien. S'il n'y a pas d'intermédiation financière, comment veut-on qu'une société fonctionne ? Ça n'a strictement aucun sens. Donc je pense que si on raisonne simplement, et si on a une connaissance de ce qu'est simplement le système économique, c'est ça qui est désolant, c'est que de temps en temps, on ne sait pas ce qu'est le système économique. Bon, dans un système économique, si vous allez du côté, on dit il n'y a pas d'entreprise, d'où viennent nos salaires qui nous permettent de payer les impôts, et d'où vient ce que dépensent les collectivités, qu'elles soient publiques, ou autre collectivité locale ou l'État, et sans impôts, il n'y a pas d'emploi. Il faut bien que la richesse soit créée quelque part. Donc, quand on a une connaissance du système économique, il ne s'agit pas là d'un parti pris, il s'agit simplement de se dire que l'entreprise a un rôle qui est un rôle absolument indispensable au fonctionnement des sociétés. Alors, après, dans la façon dont les entreprises sont gérées, qu'on puisse porter des jugements, nous, on n'a pas voulu porter de jugement. Nous, on a voulu essayer de faire le plus pédagogiquement
faire des portraits,
possible,
faire, des portraits.
Faire les portraits, dire qui sont-ils ? Puisqu'on ne les connaît pas forcément, qui sont-ils ? Alors, je ne prétends pas qu'on y ait réussi, mais on a essayé d'y contribuer.
Des responsabilités du dirigeant, des métiers qui sont en pleine évolution, quel est le point qui vous a le plus frappé, in fine, en synthèse, à l'issue donc, de cette découverte collective des dirigeants ? Est-ce qu'il y a un point ? Si vous n'avez qu'un point à retenir, ce serait lequel ?
Alors, c'est difficile parce que c'est...
Ils sont tous importants.
C'est extrêmement riche, quand on regarde l'ensemble. Mais moi, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que, véritablement, les dirigeants, en tout cas ceux qu'on a vus ici, on trouvera, si on veut, peut-être des contre-exemples, parce qu'on n'a jamais... Mais ceux qui ont accepté de nous répondre, ils ont vraiment, quelque part... c'est personnel, mais ils ont vraiment le souci de leur entreprise. Moi, j'ai interrogé Gilles Pélisson.
Et c'était votre interview personnelle, celui-là.
Un des mandats qu'on avait, c'était de leur dire, on va aussi, les nouveaux visages des dirigeants, leur demander de parler d'eux-mêmes, etc. Je ne suis pas arrivé d'ailleurs, je l'ai interrogé avec Daniel Vitry, collègue de Paris 2.
Qui est un grand ami aussi du Prix Turgot.
Voilà, c'est un grand ami, tout le monde connaît Daniel Vitry. Et on n'est pas arrivé à lui faire parler de lui, non pas qu'il ne voulait pas, mais ce qui l'intéressait, c'était son groupe, la stratégie, il était complètement impliqué. Alors après, est-ce que ce qu'il fait est bien, pas bien, il ne m'appartient pas de le juger, moi ce n'est pas du tout l'objet. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués et qu'ils ne vivent pas pour la réussite de l'entreprise dans laquelle ils sont, et totalement impliqués. Je trouve que, écoutez, si c'est le métier de dirigeant, ça fait partie du métier de dirigeant. Après, il faut qu'ils aient une vision, etc. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement positif. Et je serais malhonnête de ne pas le dire parce que j'ai pas... Vous me demandez un sentiment personnel, je vous le donne.
Écoutez, merci. Donc, vous le dites avec passion, avec une grande sincérité. Je rappelle que par ailleurs, au-delà du fait que vous avez dirigé ce livre qui émane donc du cercle de l'entreprise et du management, vous êtes aussi le délégué général de la FNEJ et que donc vous êtes un grand expert du monde de l'entreprise et des dirigeants. Je rappelle le nouveau visage des dirigeants du CAC 40 par le cercle de l'entreprise et du management dirigé par Pierre-Louis Dubois chez Personne. Merci encore à vous, c'était un grand plaisir.
Merci beaucoup.